1 Timothée chapitre 6, et nous allons lire les versets 18 et 17 à 19. Donc, c'est vraiment dans cette lettre, on a une série de recommandations que l'apôtre Paul fait à Timothée. Donc, c'est une espèce de patchwork avec beaucoup d'exhortations. Et donc, c'est une lettre, elle commence avec quelque chose, parfois il passe à autre chose, il revient. Donc, le thème qui est évoqué ici, si vous regardez bien, il avait été un peu abordé par Paul sous un certain angle à partir du verset 3 jusqu'au verset 10 à peu près, du verset 10, où il parlait de l'amour, de l'argent, de ceux qui voyaient dans la piété une source de gain. Et puis là, il revient au verset 17 pour parler de ceux qui sont riches. Alors au verset 6, 7, 8, 9, 10, il parle de ceux qui veulent s'enrichir, et particulièrement des faux docteurs qui sont marqués par l'amour de l'argent. Et puis ici, au verset 17, il parle des riches, recommande aux riches du présent siècle. Je pourrais dire les riches de l'Église, quoi. Là, on peut supposer qu'il y avait des riches dans l'église d'Éphèse. Et il dit, donc je lis le verset, les versets, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. » Voilà, donc j'ai une première question ici, puisque l'apôtre Paul s'adresse aux riches, il dit aux riches du siècle, du présent siècle. Alors, je vous avais posé la question, qu'est-ce qu'un riche? Qu'est-ce qu'un riche? Quelqu'un qui possède des grands biens, d'accord? Alors, combien de grands biens faut-il posséder pour être considéré comme riche? Beaucoup, d'accord, beaucoup. C'est parce que d'autres ont d'autres réponses? D'accord. On peut être riche en France, c'est pas pareil qu'être riche au Qatar. D'accord. OK. Donc, la richesse, ça dépend du niveau moyen, on pourrait dire, de vie dans le pays. C'est vrai qu'on parle de niveau médian, de salaire médian. Hein, d'accord. Parfois, on parle de richesse en parlant du salaire des gens. À partir de combien on touche, on considère qu'on est riche. Quelqu'un qui touche le SMIC, on considère qu'il n'est pas riche. Alors j'avais vu que le salaire médian, c'était dans les 3000 et quelques euros. Donc quand on est au-dessus, on est considéré comme riche. Mais les gens qui touchent 3000 euros ne se considèrent pas du tout comme des personnes qui sont riches. Et en France en particulier, on a un rapport assez particulier avec l'argent. J'ai lu qu'il y avait un sondage fait en 2012, je crois, et une enquête IFOP qui disait que 78% des Français perçoivent les riches de façon négative, mais 76% d'entre eux n'ont rien contre le fait d'être riche. Par ailleurs, 82% d'entre eux stigmatisent le manque d'exemplarité des riches. Ils disent ce n'est peut-être pas tant leur fortune qu'ils critiquent que leur comportement. Alors, parfois, on critique les riches, mais souvent on rêve. Faut être honnête, on rêve parfois d'être ou d'avoir. On dit si seulement j'avais la moitié de ce qu'ils avaient, j'aurais fait avec. Mais dans la pensée collective, on est riche quand le revenu dépasse pour nous dans notre tête un certain niveau. Et il arrive que chacun, bien sûr, a sa petite idée sur la richesse. Si on vous demandait à vous, est-ce que vous êtes riche? Vous auriez dit forcément non. Je ne me considère pas comme riche. Je me souviens avoir parlé il y a plusieurs années avec quelqu'un qui me disait, qui avait un bon poste, son mari aussi avait un bon poste. Et cette personne disait, moi, je ne me considère pas comme riche. Je n'ai pas de maison achetée à Paris. Hein. Je n'ai pas pu m'acheter une maison à Paris. Je ne me considère pas comme riche, même si elle avait un bon salaire, son mari avait un bon salaire. Donc, chacun a dans sa tête un peu ce que ça voudrait dire d'être riche. Mais, qu'est-ce qu'être riche en réalité? Puisque l'apôtre Paul parle aux riches ici, et puis on pourrait dire, ça ne nous intéresse pas parce que dans notre église, il n'y a pas de riches. OK? Ou ça ne me concerne pas? Pardon, tu as dit? On ne sait pas s'il y a des riches. On va demander à chacun sa carte, son compte en banque, et on va regarder. Mais aussi, on pourrait se dire, mais ça ne nous concerne pas parce que je ne suis pas riche. Alors, Paul dit à Timothée, par exemple, 1 Timothée 6, versets 8 et 9. Donc, si vous regardez, on avait regardé ce passage-là, même chapitre, hein, 1 Timothée 6, à partir du verset 8, il dit, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Verset 9, « Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. » C'est intéressant de voir ça, non? Il dit, « Si nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. » Mais ceux qui veulent s'enrichir, autrement dit, ceux qui ne se contentent pas de la nourriture et du vêtement. Donc, pour lui, être riche, c'est passer le seuil de la nourriture et du vêtement. Quand on a ça, on a tout ce qu'il faut. Cela nous suffit, on a tout ce qu'il nous faut, ça veut dire. Et donc, tout ce qui vient en plus, c'est de la richesse. Donc, on pourrait dire ici, selon la pensée que Paul a ici, que être quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a plus que le vêtement, la nourriture et le logement, ou les choses vraiment extrêmement basiques de la vie quotidienne. Alors, si on se place sous ce critère-là, est-ce que nous sommes riches? Si vous avez un peu d'argent sur votre compte en banque, vous êtes riche. Vous êtes riche. Alors, bien sûr, vous pouvez dire, mais si, on n'est pas aussi riche que les autres, que d'autres. On n'est pas comme le patron d'Amazon. C'est vrai. C'est vrai. Mais il y a des millions et des millions de personnes qui ont bien en dessous de ce que nous avons. Et probablement pas des millions et des millions qui ont au-dessus de ce que nous avons. Voyez? Donc, ça veut dire que quand même, en général, nous avons, en général, ça peut arriver qu'il y ait quelques personnes dans des situations extrêmement difficiles, mais en général, nous avons plus qu'il nous faut. Nous avons plus qu'il nous faut. D'accord? Je ne parle même pas quand on a deux voitures, une maison de vacances, on peut voyager comme on veut, etc., sans se poser des questions. On est considéré comme riche. Donc finalement, ce que l'apôtre Paul va dire ici, ça nous concerne. Ça nous concerne tous. Et parce qu'on a, ce qu'il faut, on a même plus que ce qu'il faut, même si on n'a pas autant que l'on voudrait, peut-être. Mais on a plus qu'il nous faut. Donc, Paul va s'adresser ici aux riches de l'Église et il va leur donner, il va dire à Timothée, recommande aux riches des choses. Donc, donne-leur des exhortations. On avait dit que le mot recommande, c'est le même qui est utilisé depuis le début. Hein, on avait fait ça une fois, vous vous rappelez, où l'apôtre Paul dit en chapitre 1, verset 3, « Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, d'accord, c'est afin que tu recommandes à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. » Et le mot « recommande » ici, c'est une exhortation forte, c'est-à-dire que je te donne l'ordre de les interdire d'enseigner. C'est-à-dire que Timothée avait une obligation à la fois de moyens et de résultats. Il fallait qu'il obtienne des résultats. Et donc, quand il dit « recommande aux riches », c'est le même mot qu'il utilise avec la même force. Et ça veut dire que tu dois enseigner la chose, tu dois le dire dans l'Église, parce que certainement, ça n'est pas quelque chose qui est naturel. Alors, la question, pourquoi est-ce que c'est difficile? Je ne sais pas comme ça que j'ai posé la question, je ne me rappelle plus. Hein. Est-ce que c'est facile, pardon, est-ce que c'est facile de faire des recommandations aux riches? Hein? Pas du tout? Pourquoi c'est pas facile? Parce que c'est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille? Non, mais là, il est question de faire des... Oui, papa. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Ah oui. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? C'est vrai, ça c'est une raison, oui. Oui. Ah oui. Mais c'est bien ce que tu dis, parce que tu dis, nous sommes petits par rapport à lui. D'après lui, mais aussi d'après nous, hein, quelque part. Souvent, nous, on se... Honnêtement, hein, quand quelqu'un a entre guillemets, réussi, ça, on se dit, ouais, c'est un grand monsieur, il gagne bien sa vie. Et quand on dit c'est un grand monsieur, en opposition, on dit, nous, on est... Et on peut se sentir, on dit, qui suis-je pour aller donner des conseils à ces personnes, d'accord? Et puis, parfois, d'une manière un peu plus... matérialiste, on peut dire que ça peut arriver dans une église qu'un responsable, il ait du mal à dire quelque chose à quelqu'un qui a beaucoup de moyens parce qu'il sait que, bon, si cette personne supporte quasiment toute l'église. Si jamais elle part, il n'y a plus rien. Hein. Ça peut arriver, hein. On est humain et ça peut arriver que l'on agisse comme ça. Mais Paul dit, néanmoins, ici à Timothée, ça, c'est pas... Il n'y a pas ce genre de choses à considérer. Devant Dieu, hein, il y a des recommandations pour les veuves, il y a des recommandations pour les anciens, on a vu les recommandations pour d'autres qualités de personnes, les jeunes, les âgés dans l'Église. Il dit, voilà, il y a une catégorie de personnes aussi dans l'Église que tu dois adresser parce que cette catégorie court un certain danger aussi et doit avoir une certaine attitude aussi dans l'Église par rapport à leur situation économique. Alors, on va avancer quand même. Première chose que Paul dit ici à Timothée, il demande de faire deux choses. Il demande de leur dire ce qu'il ne faut pas faire, des choses, des pièges, on va mettre ici, qu'il faut éviter. Et puis, deuxièmement, ce qu'il faut faire. Donc, je dis premièrement, il y a les pièges à éviter. Deuxièmement, j'appelais ça des opportunités à saisir. Et puis, troisièmement, la perspective qu'il faut maintenir ici. Donc, on peut voir ça dans le verset 17, c'est « recommande aux riches du siècle présent de ne pas ». Donc, ils demandent des choses qu'ils ne doivent pas faire, une attitude qu'ils ne doivent pas avoir. Et puis, au verset 18, « recommande-leur de faire ». Donc, il y a des choses qu'ils doivent faire. Et puis, au verset 19, et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor afin de saisir la vie véritable. Donc il y a une perspective dans laquelle il leur demande de se placer. Alors, on va regarder le piège à éviter. On recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu. Alors, là, j'avais une question sur les orgueilleux, je crois, ici. Rappelez-la-moi un peu, parce que je n'ai pas pris mon papier. Pourquoi le riche risque-t-il de tomber dans l'orgueil, à votre avis? Je vous avais donné quelques versets qui pourraient nous aider à trouver des réponses. Hein. Pourquoi est-ce que le riche risque de tomber dans l'orgueil? Déjà, je veux dire une chose, l'orgueil n'est pas... péché exclusivement réservé aux riches. Hein. C'est pas ce que Paul dit ici. Hein. Hein. Le pauvre aussi peut tomber dans l'orgueil, et tous les hommes, et toutes les femmes avec. Okay. Mais il semble dire ici qu'il y a particulièrement ce risque pour les riches. Alors, à votre avis, qu'est-ce que vous avez... Il peut croire que c'est grâce à ses capacités qu'il a obtenu ses richesses. Ça, c'est une grosse tentation, un gros piège quand on est riche, oui, c'est vrai. voilà, fruit de son intelligence, de sa force, de son savoir-faire, voilà. Très bien. Donc ça c'est juste. Hein. La formulation même du commandement montre qu'il s'agit ici pour ces personnes de lutter contre quelque chose qui sera une tendance naturelle compte tenu de leur situation hein, économique. Donc l'orgueil ici. Et donc ce n'est pas la richesse en elle-même, on pourrait dire, qui est un problème, mais plus le riche dans son attitude de cœur face au bien. Paul ne dénigre pas la richesse, il ne dit pas « dis-leur de ne pas être riche », ce n'est pas ce qu'il dit, mais « dis-leur de ne pas être dans leur caractère d'une certaine manière par rapport à la richesse qu'ils ont ». Donc les pauvres, bien sûr, je le disais tout à l'heure aussi, peuvent être bien sûr orgueilleux. Alors en quoi consiste cet orgueil ? Vous l'avez déjà dit, dans la pensée, alors on a dit parce qu'on peut s'attribuer à soi, je l'écris comme ça moi, dans la pensée hautaine qui s'attribue le mérite de sa réussite. Et là, on a un exemple avec ce que Dieu dit au peuple d'Israël, rappelez-vous, hein, dans Deutéronome chapitre 8, verset 17, ils ont passé 40 années dans le désert, ils étaient dans la précarité la plus grande, ils avaient des vêtements qui ne se sont pas usés, hein, donc certainement très peu, je ne sais pas comment il faudrait bien comprendre cette phrase, mais bon, en tout cas, Dieu a pris soin d'eux, ça veut dire cela, ils étaient dans la frayeur constamment, Dieu les a protégés, et maintenant Moïse leur dit, vous allez rentrer dans un pays où coule le lait et le miel, voilà, Dieu va vous faire entrer, vous allez manger des vignes que vous n'avez pas plantées, le sol est fertile, enfin bref, il y a plein de choses, et alors là, il y a la perspective de la richesse, après la précarité, la prospérité. Et c'est ce que dit notre vérité fondamentale sur la providence de Dieu. Hein, elle nous est bénéfique en ce qu'elle nous permet d'être reconnaissants dans la prospérité. Hein, ici. Eh bien, Moïse travaille avec le peuple pour qu'il soit reconnaissant dans la prospérité. Et donc, pour qu'il se souvienne que c'est Dieu qui l'a fait sortir. Et le verset 17 et 18 disent « Garde-toi dans ton cœur de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. » Donc ça veut dire que c'est une tentation forte quand on a quelque chose de se dire, c'est à la sueur de mon front que j'ai obtenu cela. J'ai travaillé pour ça. Que ce soit une richesse, que ce soit un diplôme, que ce soit quelque chose. Hein. Parfois on peut dire, voilà, mais tu sais, j'ai travaillé, je me suis levé tôt le matin, j'ai fait ça. Et vraiment, s'il y a quelqu'un à louer, c'est bien moi. Ça veut dire un peu ça. Et Dieu dit, attention que cette pensée ne vienne à votre esprit, ni dans votre cœur. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera la force de les acquérir. Ok, tu vas acquérir des richesses, tu vas travailler, tu vas faire fructifier le sol, tu vas bêcher, tu vas arracher des mauvaises herbes, tu vas planter, etc. Mais n'oublie pas que c'est Dieu qui te donne la force de faire tout cela. Et que par conséquent, la richesse, elle vient de la force que Dieu te donne, et pas simplement de la force que tu utilises pour faire fructifier le sol, par exemple. Donc ça c'est une raison pour laquelle, une manière dans laquelle consiste l'orgueil. Mais une deuxième façon, j'ai mis ici, c'est dans le sentiment de supériorité que l'on peut avoir. Le proverbe 28:11 dit « L'homme riche se croit sage ». L'homme riche se croit sage. Donc le riche se croit. Le mot ici, c'est le mot qui est utilisé parfois, qui est traduit parfois subtil ou habile. Il se croit intelligent. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas intelligent, mais je veux dire, mais il se place dans une supériorité par rapport aux autres. Si j'ai pu acquérir toutes ces choses, c'est parce que je suis subtil, intelligent et sage. Autrement dit, l'autre n'est pas arrivé parce que bon, il n'a pas les mêmes capacités. Donc le riche, il se croit habile. Il aura tendance à se croire au-dessus des autres. Il y aura tentation de mépriser ceux qui sont pauvres, parfois, en disant que c'est parce qu'ils ne sont pas suffisamment comme il faut, et on est certainement au-dessus d'eux. Alors bien sûr, la chose ne se passe pas toujours ainsi. Quand on dit quelque chose, ça ne veut pas dire que tous, sans exception, agissent de la même manière. Il y a des enfants de Dieu qui sont riches, qui agissent avec beaucoup de sagesse, etc. Puis il y en a d'autres, des hommes du monde, qui agissent aussi avec de la sagesse, etc. Mais d'une manière générale, hein, la tendance naturelle, le cœur de l'homme étant mauvais, la tendance naturelle, c'est celle-ci. C'est qu'on se place au-dessus des autres. Alors, il n'y a qu'à regarder autour de nous, en général, hein, les gens qui sont parfois extrêmement riches, on en connaît beaucoup, surtout quand ils sont très médiatisés, ils ont des exigences qui sont... une fois, j'ai entendu qu'il y a... Je ne sais plus qui c'était, mais en tout cas, ça n'a pas d'importance, mais quelqu'un assez jeune qui est riche et qui est arrivé dans un hôtel et qui avait envie de manger, je ne sais plus quoi, un truc qu'on trouve presque nulle part, quoi. Il a fallu affréter un avion pour aller lui chercher ça dans le pays d'à côté pour lui ramener ça dans l'hôtel. Parce que monsieur paye. Et puis, je ne peux pas... Vous voyez, c'est, les gens se disaient, mais c'est aberrant. Mais ils l'ont quand même fait. Ils l'ont quand même fait. Donc, parfois, c'est vrai. Bon, tout le monde n'agit pas comme cela. Mais on peut avoir un orgueil démesuré, se croire au-dessus des autres, croire que tout nous est permis, simplement parce que on a des moyens, simplement parce qu'on a des moyens. Et du temps de l'Ancien Testament et même du Nouveau Testament, et la richesse était considérée comme un signe de bénédiction pour le peuple juif. On le voit dans l'Ancien Testament. Mais déjà, à l'époque de Jésus, les Juifs se considéraient la fortune comme une bénédiction divine, hein, et comme le fait qu'ils étaient approuvés de Dieu. Et leur attitude à l'égard de Jésus, c'était le mépris. Rappelez-vous, dans Luc chapitre 16, un chapitre qui parle beaucoup de l'argent d'ailleurs, où Jésus a beaucoup de paraboles sur l'argent. Luc chapitre 16, versets 13 à 14, il dit « Nul serviteur ne peut servir deux maîtres. Ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Et puis, il dit, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. Et le texte se poursuit en disant ceci, les pharisiens qui étaient avares, alors le mot qui est traduit avare peut être traduit par qui aimait l'argent. D'autres textes disent les pharisiens qui aimaient l'argent, écoutaient aussi cela et ils se moquaient de lui. Et on pense qu'ils se moquaient de lui particulièrement parce qu'il était pauvre. Hein? Qui c'est cet homme qui est pauvre, qui vient nous dire à nous, qui sommes bénis de Dieu, ça se voit, n'est-ce pas, que, etc., etc. Et qui critique l'argent, etc., le fait de... Donc cette moquerie est suscitée par leur sentiment de supériorité à l'égard de Jésus. Donc on peut dire que l'orgueil consiste en ce qu'il place parfois, ceux qui ont les moyens, dans un sentiment de supériorité. Donc, avoir plus que nécessaire, chers frères et sœurs, c'est un danger. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais, ça veut dire que ça présente quand même un danger. Et c'est ce danger vers lequel l'apôtre Paul veut que Timothée enseigne les riches de l'église d'Éphèse. Nous nous sentons plus haut que les autres, et nous espérons au moins que l'autre nous voit plus haut que lui. Hein. Et c'est pour ça que nous voulons parfois des vêtements de marque. Pourquoi est-ce qu'on veut un vêtement de marque? Il faut se poser la question. Des fois, on dit parce que c'est plus solide. Ça, c'est la raison secondaire, je crois. C'est la raison secondaire. Nous avons honte de porter tel vêtement s'il n'a pas de marque. Peut-être pas nous directement, mais peut-être nos enfants, nos ados. Pensons à tout ça. Hein. Je veux le truc. Parce que dans mon établissement scolaire, les copains, c'est ça qu'ils portent. Et puis peut-être nous aussi un peu. Comme ça, d'accord. Mais pourquoi est-ce que... C'est pas parce que c'est plus solide qu'il porte le truc, c'est parce que c'est cher. Et quand c'est cher et que je porte quelque chose qui a de la valeur, ça veut dire que moi aussi, j'ai une certaine, ça m'appartient, j'appartiens à une classe particulière. Et à moins que tu ne t'habilles comme moi avec ce type de... Tu ne fais pas partie de mon groupe. Hein? Et on a vu des enfants faire payer à des parents. J'ai vu une fois un reportage, j'avais une mère qui a une espèce de blouson là, canadien, je ne connais pas le nom, hein, je ne m'appelle plus le nom, hein, Goose ou quelque chose comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, un truc qui est très cher, ça coûte très très cher. Et la jeune adolescente a fait sa mère, qui s'est mis plié en quatre, économiser pour lui acheter
ce manteau parce que c'était ça qui était à la mode et tout. Ça coûtait 600 ou 700 euros, je crois. Parce que c'est ce que tout le monde avait. Hein. Et donc, ça, c'est une chose. Mais ça, c'est comme ça, parfois. Et on veut ce qui a de la valeur parce que, quelque part, on s'identifie un peu à, on s'identifie un petit peu à cela. Donc, l'argent et les vêtements sont les éléments de comparaison, bien souvent. Et donc, on se croit meilleur que l'autre parce que l'on a plus que l'autre. Alors, ce qui est dangereux, c'est qu'on ne se dit pas cela, mais parfois, on peut agir d'une certaine manière qui montre cela. Donc, on doit être vigilant sur cette chose-là, parce que ça, c'est le fruit de l'orgueil dans le cœur. Donc, pourquoi est-ce que les gens sont fans de tel ou tel artiste ou sportif? Moi, des gens... Alors, j'ai regardé comme ça, parce qu'il y avait... hier, en préparant, puis parce qu'on parlait comment il s'appelait le Roumain qui avait été qui était dictateur là, Ceaușescu je crois, ouais, et qui voilà. Et puis à un moment donné, il parlait du chanteur là, célèbre américain Michael Jackson, qui est allé dans ce pays. Et puis je dis tiens, je vais quand même regarder ce qu'il a dit dans cela. Et donc j'étais surpris de voir alors les gens qui tombaient vraiment devant lui, comme si c'était, il fallait le toucher, comme si ça allait faire. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que on est comme cela? Est-ce que c'est son métier, c'est de chanter? Est-ce que c'est parce qu'il chante extrêmement bien? Les gens ne disent pas, chante-nous quelque chose qu'on puisse entendre. Non, on veut juste le toucher. Et je suis certain que ça, c'est la notoriété et la richesse que cette personne a pu atteindre. C'est son niveau de vie qui crée cette attirance et qui fait qu'on se sent tout petit face à ce personnage qui est hyper planétaire, etc., et qui a tous les moyens qu'il veut, qui peut faire ce qu'il veut, qui peut se payer ce qu'il veut, etc. On considère peut-être que ça c'est peut-être pas nous dans le cœur, mais je veux dire, mais en général, dans la pensée collective, on considère les choses comme cela. Donc, vous voyez, c'est pour cela que c'est important de bien penser à ces choses. Hein. L'apôtre Jacques dit la même chose à l'Église. Il dit, s'il rentre dans l'Église, un riche et un pauvre. Et puis que vous dites aux riches, aux pauvres, assieds-toi là, sur mon marchepied. Et puis vous amenez le riche, vous le mettez à une place d'honneur. Il dit, ne faites-vous pas, comme il dit, une distinction en vous-même. D'accord? Il dit, n'est-ce pas les riches qui vous oppriment? Il dit. Et donc, vous voyez, ça veut dire que même dans l'Église, il dit, voilà, vous avez tendance à faire du favoritisme qui est basé sur la situation économique des gens. Et c'est quelque chose qui existait à l'Église d'antan, c'est quelque chose qui existe encore aujourd'hui de nos jours. Et donc ça, c'est le piège de la confiance, de l'orgueil, et quelque chose que l'apôtre Paul souligne ici. Deuxièmement, et je vais terminer avec celui-ci, parce qu'on n'aura pas le temps de voir la suite, mais le piège de la confiance aussi. Le verset dit, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. » Donc d'abord, de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Et Paul souligne que le second piège ici qui guette le riche, c'est celui d'avoir son espérance dans la richesse. De s'attendre à ce que ça pourrait lui rapporter. De mettre sa confiance, on pourrait dire, dans la richesse. J'allais poser une question sur ça, je ne sais plus, hein, mais peut-être pas.
En quoi les richesses sont-elles incertaines?
Voilà, en quoi les richesses sont-elles incertaines? Parce que Paul dit de ne pas mettre sa confiance dans les richesses incertaine. C'est pas... Oui, c'est passager. Ouais. Pas définitif. On peut l'avoir aujourd'hui et pas l'avoir demain. Oui. Oui. Oui, l'outil peut être provisoire. Oui, c'est vrai. Oui. Oui. Ouais. Ouais, ouais. Est-ce que vous connaissez quelqu'un dans la Bible qui en a eu, pas eu, il n'a pas eu?
Job, hein, il était beaucoup. Après, je pensais aussi à l'apôtre Paul. Il a dit, j'ai appris à vivre dans la disette et dans l'abondance. Il dit, voilà, à chaque fois, bon, il y a des moments où il y avait beaucoup, des moments où il n'y en avait pas. Encore. Très bien. Donc, est-ce que vous avez autre chose, peut-être? Encore. Ah oui. La mort, hein. Très bien. La mort, hein. Proverbe 18, 11 dit, la fortune est pour le riche une ville forte, et dans son imagination, c'est une haute muraille. Vous voyez ça, il dit. Ça veut dire que c'est la tendance que l'on a, c'est l'Écriture qui dit ça, hein, d'accord? C'est la tendance qu'on a, c'est de placer la confiance dans les moyens que l'on a. Et parce qu'on pense toujours que les moyens vont nous permettre de sortir de toutes les situations. Si j'ai de l'argent, je peux avoir le bon médecin, le bon hôpital, habiter le bon quartier. Souvent, les gens disent je suis à l'abri du besoin. Je suis à l'abri du besoin. C'est une manière de dire voilà, bon, c'est vrai, j'ai pas besoin de réfléchir comment je vais faire les choses. Et c'est vrai que souvent, on n'a pas non plus besoin de prier parce qu'on se dit il suffit de tendre la main, de prendre la carte bleue, etc. Et c'est pour ça que Paul dit ici de ne pas mettre la confiance dans la richesse, mais de la mettre, il dit bien, en Dieu, qui donne avec richesse, c'est ce qu'il dit ici. Donc, alors, pourquoi est-ce que c'est un piège? Donc, ça, c'est la question que je pose, mais à laquelle je vais répondre. Pourquoi est-ce que c'est un piège? D'abord, à cause du caractère temporel des richesses, ça vous l'avez dit, hein. L'apôtre Paul dit le riche du siècle présent, déjà. Donc, il montre bien que il y a une limite, une temporalité à la richesse, une limite temporelle. Et puis, les richesses donc sont incertaines, elles sont, ou alors on peut dire qu'elles sont précaires, comme vous l'avez dit, parce qu'elles peuvent disparaître du jour au lendemain. Et c'est pour ça que le proverbe 23, verset 4-5, je pense que je vous l'avais donné, celui-là, il dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir hein. ». C'est-à-dire, voilà, tu ne vas pas calculer comment je pourrais m'enrichir. Il dit « N'y applique pas ton intelligence ». Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son envol vers les cieux. Et vous pouvez, comme un aigle prend son envol, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous ne pouvez pas le suivre. Hein. Ça part vite, hein, on ne peut pas l'attraper. Puis, on a l'impression que ceux qui volent, on ne peut pas l'attraper facilement. Hein. Je me souviens de Kiran, quand il était tout petit à la maison, il commençait à courir, il court à l'extérieur. Je ne sais pas si tu es dans un parc à l'extérieur, et puis il y avait un pigeon par terre. Il voit le pigeon, il commence à aller tout de suite, puis il commence à courir après le pigeon. Et puis, il fait ça, mais le pigeon pff, est parti. Il me dit, papa, je l'ai presque attrapé. J'ai dit, ouais, bien sûr, mon fils, tu l'as presque attrapé. Hein. On peut toujours essayer, on ne va pas l'attraper, ça vole, ça sort. Mais il dit que la richesse, c'est pareil, hein. On peut courir après, mais c'est quelque chose qui va s'envoler. Et c'est souvent difficile de retenir, n'est-ce pas, ce qui a des ailes. Donc, il y a pas mal d'autres proverbes qui disent cela, mais on va pas... Proverbe 24, verset 27, vous pouvez noter si vous voulez, mais on ne prendra pas le temps de le lire. Donc, c'est un piège à cause du caractère temporel de la richesse, mais c'est aussi un piège à cause du caractère éphémère de la vie, vous l'avez dit. Paul dit, hein, au verset 7 du chapitre 6, « Car nous n'avons rien apporté dans le monde, il est évident que nous ne pouvons rien emporter. » Et là, il parle vraiment de la mort. Hein. Le fait que l'on voilà, on vient sans rien à naissance et on part sans rien à la mort. Le psaume 49, verset 17, dit « Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant et ses trésors ne descendent point avec lui. » D'accord? Je me rappelle de cette petite histoire qu'avait racontée ici même. Je crois que c'était à l'époque qu'il y avait Halal, le docteur Halal qui était là avec un homme qui était venu et qui avait prêché et qui parlait de d'un homme qui était vraiment... il avait un petit peu d'argent et il était attaché à son argent tellement qu'il a mis son sac d'argent dans son grenier. Il a dit à sa femme, j'accroche ça là, t'es malade, j'accroche ça là. Et comme ça, quand je vais mourir et que je monte au paradis, je le prends et je monte avec. Et le jour où cet homme est mort, le premier réflexe de sa femme, c'est de monter dans la
dans le grenier. Et il est monté dans le grenier et elle a vu que le sac était toujours là. Et il s'est dit, ah, peut-être qu'il est descendu. En parlant de l'enfer. Et qu'il n'est pas monté. Et c'est ce qui peut arriver, n'est-ce pas, hein? On pense qu'on emportera les choses avec nous. Non seulement on les emporte pas avec nous, mais on va en montant, mais on va descendre si on ne fait pas attention. C'est ce que le texte dit ici. Il dit, il n'emporte rien en mourant et ses trésors ne descendent pas non plus avec lui. Et vous vous rappelez de la parabole du riche insensé que Jésus a raconté, hein, où il dit, Dieu lui dit, cet homme dit, j'ai des grands biens et commence à se réjouir pour les années à venir. Je suis hors du besoin. C'est exactement ce qu'il dit. Et Dieu dit, cette nuit même, insensé, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Et il ajoute, il en est ainsi de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Voilà, je vais m'arrêter là parce que je voudrais qu'on puisse prendre le temps de prier un petit peu. On continuera la prochaine fois. Que le Seigneur nous aide à considérer ces choses. Le riche, ce n'est pas toujours l'autre. Hein? Le riche, c'est aussi moi. Et même si j'ai des petits biens, mais c'est ce que Dieu m'a donné. Et je dois être attentif à la manière avec laquelle je considère ce que Dieu m'a donné. Et je ne peux pas être orgueilleux, penser en regardant aux autres, hein, penser que j'ai plus que les autres. Donc, c'est que Dieu me bénit plus, peut-être que je suis meilleur, hein, comme le pensaient les Juifs de l'époque. Hein. Et donc, prendre ces paroles pour nous, ne pas être orgueilleux, ne pas mettre notre espérance dans les richesses incertaines, mais, on va voir ça la prochaine fois, de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous puissions en jouir. Que le Seigneur nous aide à considérer notre vie à notre niveau, mais à considérer notre vie pour qu'elle soit conforme à sa volonté aussi dans ce domaine-là.